VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mardi 15 novembre 2022. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta effectue aujourd'hui une visite à Goma en plein combat entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23.
Uhuru Kenyatta a consulté plusieurs acteurs de la société civile ainsi que la classe politique congolaise.
Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Leskati Kataï, dans la partie magazine. La Côte d'Ivoire va retirer progressivement ses troupes de la mission de l'ONU au Mali. Le premier ministre éthiopien appelle au respect des promesses de l'accord de paix signé à Pretoria. Ouverture aujourd'hui à Bali, en Indonésie, du sommet du G20. À suivre également dans cette session d'information spéciale Coupe du Monde Qatar 2022 avec Yakou. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, est arrivé ce mardi à Goma, alors que des combats entre rebelles du M23 et FARDC se déroulaient non loin de la ville. Le point avec Mouamadou Mfa.
Uhuru Kenyatta est arrivé à Goma après un séjour de 48 heures à Kinshasa, la capitale, où il a rencontré autorités, diplomates et communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, les trois provinces les plus affectées par les violences depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix, prévue le 21 novembre à Nairobi. Les groupes armés opérant dans la région devraient déposer les armes et choisir le chemin de la paix par le dialogue, parce que rien ne peut être gagné avec le canon d'un fusil, a déclaré M. Kenyatta lundi soir devant la presse. Pendant ce temps, des combats ont continué mardi dans et autour de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. En début d'après-midi, des centaines de déplacés ont afflué vers Goma, la capitale de la province du Nord Kivu.
La Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023, une décision qui intervient sur fond de tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako depuis plusieurs mois. Jacques Aristide.
La mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU confirme dans un courrier adressé aux Nations Unies le retrait graduel des personnels militaires et de police ivoiriens déployés au sein de la MINUSMA, la relève de la compagnie de protection basée à Mopti, de même que le déploiement des officiers d'état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués, ajoute la lettre. L'armée ivoirienne ne confirme pas si ces relèves ont effectivement déjà été interrompues. La Côte d'Ivoire indique également que les militaires et autres éléments présents au sein de la MINUSMA ne seront pas relevés en août 2023. Aucune raison officielle n'est donnée pour ce retrait, mais les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont considérablement tendues ces derniers mois, en particulier après l'arrestation en juillet dernier de 49 militaires ivoiriens à Bamako. Après trois libérations, 46 d'entre eux sont toujours détenus au Mali, qui les accuse d'être des mercenaires, alors qu'Abidjan assure qu'ils devaient prendre part à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali. Hier, Londres a indiqué vouloir retirer plus tôt que prévu son contingent, évoquant notamment le rapprochement de la junte malienne avec le groupe paramilitaire Wagner, réputé proche du régime de Moscou.
La Cour suprême de Guinée-Bissau a annoncé la suppression de 28 partis politiques qui n'ont pas apporté la preuve de leur existence réelle, selon elle. Il s'agissait pour la Cour suprême de débroussailler la cinquantaine de partis existants en vue des prochaines législatives en Guinée-Bissau, ce pays de 2 millions d'habitants. La décision de la Cour frappe des petits partis et ne concerne aucune des formations représentées au Parlement, dissous en main par le président Oumaru Sissoko Embalo. Des leaders des partis radiés se sont réunis ce mardi et ont promis de protester. Faire la paix avec les rebelles du Tigré est nécessaire pour ne pas compromettre le développement de l'Éthiopie, a expliqué aux députés le premier ministre éthiopien, qui appelle au respect des promesses de l'accord de paix signé à Pretoria en Afrique du Sud. Le point avec Michel Joseph.
Pour garantir la paix et la prospérité, il était indispensable de cesser la guerre, a déclaré Abiy Ahmed lors d'une session au Parlement. Il a ajouté « Ce que l'on attend de nous est de mettre en œuvre scrupuleusement les promesses faites et ainsi rendre la paix durable. L'accord signé le 2 novembre à Pretoria doit mettre fin à 2 ans d'une guerre meurtrière dans le nord de l'Éthiopie. Les chefs militaires des deux camps ont paraphé samedi un document d'application des dispositions de l'accord sur le désarmement des rebelles et la livraison d'aide humanitaire au Tigré, presque coupé du monde et dont les 6 millions d'habitants sont privés de nourriture et de médicaments depuis plus d'un an. D'ailleurs, le premier convoi d'aide médicale depuis fin août est arrivé par la route à Mekele, la capitale du Tigré, a annoncé Jude Funwi, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie.
En Tunisie, le syndicat des journalistes a dénoncé ce mardi une volonté d'intimider les médias après les poursuites engagées par une ministre contre un site d'information ayant critiqué la chef du gouvernement, Najla Boudène. Vendredi, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a déposé au tribunal de première instance de Tunis une plainte contre Business News pour diffamation, allégations mensongères contre un fonctionnaire public et outrage contre la chef du gouvernement. L'opposant égyptien Alaa Abdel Fattah a interrompu sa grève de la faim. Selon sa famille, il a entamé une grève de la faim le 2 avril pour protester contre son emprisonnement et ses conditions de détention. Parallèlement à l'arrivée de nombreuses personnalités en Égypte pour la conférence climatique COP27 à Sharm el-Sheikh, il a annoncé le dimanche 6 novembre qu'il allait également cesser de s'hydrater. Et plusieurs dirigeants, dont le président américain Joe Biden, ont abordé sa situation avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture ce mardi à Bali, en Indonésie, du sommet du G20. Au menu, le changement climatique au moment où se tient la COP27 en Égypte, mais également la guerre en Ukraine et la relance économique post-Covid. Le point avec Abdou Ramandia.
Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie se tient sans Vladimir Poutine. Il intervient près de 9 mois après le début d'une guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie et de l'alimentation et a vu ressurgir la menace nucléaire. À la tribune du G20, le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé à s'opposer fermement à une instrumentalisation des produits alimentaires et de l'énergie dans ce que certains interprètent comme une critique voilée à son allié russe. Il n'a cependant pas épargné les Occidentaux, réclamant la levée des sanctions visant la Russie. La Maison-Blanche a annoncé qu'un groupe de pays riches, dont les États-Unis et d'institutions internationales, s'est engagé à verser à l'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, 20 milliards de dollars pour réduire sa dépendance au charbon et qu'elle parvienne à la neutralité carbone 10 ans plus tôt que prévu. Autre fait marquant du sommet de Bali, la présence du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au moment où les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sont mises à rude épreuve par la décision des pays exportateurs de pétrole menée par Riyad et Moscou de réduire leur production de brut malgré la flambée des prix. Aucune rencontre bilatérale n'est prévue entre le président américain Joe Biden et le prince saoudien Ben Salman lors du sommet de Bali.
La population mondiale dépasse désormais les 8 milliards d'habitants. Plus de la moitié de la croissance de la population d'ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l'ONU, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. Et à la fin du siècle, les 3 villes les plus peuplées au monde seront africaines, Lagos au Nigeria, Kinshasa en République démocratique du Congo et Dar es Salaam en Tunisie. Ici aux États-Unis, Donald Trump devrait annoncer aujourd'hui sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Le milliardaire républicain a promis une très grande annonce depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Sur le coup de 21h, heure locale, son conseiller Jason Miller a promis une déclaration très professionnelle, très soignée, lors de laquelle l'ancien président sera entouré d'un gros groupe de militants brandissant des pancartes. Et puis la capitale ukrainienne a été frappée ce mardi par de nouvelles frappes russes, les premières depuis la mi-octobre, ainsi que les villes de Lviv, Kharkiv, quelques jours après une humiliante retraite des forces russes dans le sud du pays et en plein sommet du G20 en Indonésie. Et on termine par les migrants en Europe, en France. 44 des 234 migrants du navire humanitaire Ocean Viking pris en charge par les autorités françaises seront expulsés vers leur pays d'origine après le rejet de leur demande d'asile, a annoncé aujourd'hui le ministre français de l'Intérieur. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. C'est maintenant l'heure de retrouver Yacouba Ouedraogo pour notre page spéciale Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous et bienvenue dans cette rubrique spéciale Qatar 2022. Nous poursuivons sur notre lancée de présentation des équipes africaines qualifiées pour cette édition. Après le Maroc hier, nous restons au Maghreb pour nous intéresser de près à la Tunisie qui ne fait pas beaucoup parler, mais qui veut réussir sa compétition et s'arme en conséquence. Les Tunisiens peuvent compter sur leurs aigles de Carthage, mais surtout sur l'expérience et la qualité de leur vedette, Wabi Kasri. Bagassikoura.
Le capitaine des aigles de Carthage, Wabi Kasri, en est conscient lorsqu'on a dans son groupe des pays comme la France, championne du monde en titre, l'Australie et le Danemark. Ce n'est pas une partie du plaisir qui s'annonce à une Coupe du Monde. Mais n'empêche, Kasri et les siens pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu.
Je pense qu'on est capable de sortir de cette poule. On sait quoi là, qu'il y a la France qui est au-dessus, qui va postuler pour gagner. Le Danemark et l'Australie sont de belles équipes, mais je pense qu'on n'a rien à leur envier et ça serait un exploit et quelque chose d'exceptionnel d'aller au second tour parce que la Tunisie l'a jamais fait et je pense qu'on a vraiment un collectif qui est bien huilé qui est capable, je pense, de vraiment passer ce tour des poules.
L'objectif est donc clair pour la Tunisie, se qualifier pour la première fois pour le tour suivant. Les Tunisiens pourront déjà surfer sur l'enthousiasme créé par leur première victoire en phase finale de Coupe du Monde depuis 1978. C'était en Russie en 2018 avec une victoire devant le Panama 2-1. Kasri faisait partie de l'équipe et a inscrit un but. Il est aujourd'hui un cadre de la formation tunisienne.
On représente des millions de personnes, pas qu'en Tunisie, dans le monde. Et ce qui est important, voilà, c'est de véhiculer une bonne image. Quand tu es capitaine, de montrer l'exemple en dehors du terrain, parce que voilà, par ton comportement, tu sais que tu es regardé, que les autres joueurs te regardent, les jeunes qui arrivent en sélection aussi, pour voir un peu comment ça se passe et comment, on va dire, les anciens se comportent. Et voilà, on est beaucoup maintenant à être un peu plus anciens et à avoir ce rôle-là de montrer une bonne image.
Né en France de parents d'origine tunisienne, Kasri a choisi de représenter la Tunisie depuis 2012, bien qu'il ait évolué dans les petites catégories en équipe de France. Depuis, l'attaquant de Montpellier enchaîne les compétitions avec la sélection tunisienne.
J'ai vécu 5 Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, j'espère une deuxième là. Et pour moi, voilà, en sélection, c'est une carrière aboutie qui se passe. Donc je suis vraiment content et je n'ai pas de regret d'avoir fait ce choix.
À 29 ans, Wabi Kasri s'apprête ainsi à disputer son deuxième mondial avec la Tunisie, qui est à sa 6e participation. Les Aigles de Carthage entrent en lice le mardi 22 novembre face au Danemark, avant d'affronter l'Australie le 26, puis la France le 30 novembre.
Au Cameroun, le sélectionneur Rigobert Song a publié sa liste la semaine passée. 24 joueurs professionnels et 2 joueurs locaux seront de l'expédition au Qatar. Dans la ligne défensive, on note le retour de Nicolas Nkoulou, mais un absent qui fait beaucoup parler, Michael Ngadeu-Ngadui. Écoutons les réactions de quelques habitants de Yaoundé sur cette liste.
L'absence de Ngadeu dérange. Nkoulou seul ne peut rien. Si on pouvait rappeler Ngadeu dans cette équipe-là, ça devait aller.
Ce n'est pas sûr que c'est Nkoulou qui remplace Marc Ngadeu. Il y a d'autres défenseurs qu'on a recrutés, qu'on a sélectionné, qu'on ne connaît pas encore. Vraiment, faisons confiance.
Si le coach estime que Ngandé n'est plus rentable, bon, c'est lui qui porte la responsabilité de l'équipe. Hein? Bon, moi, je trouve que le retour de Nicolas Nkoulou peut bien boucher le trou.
Le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, dit être resté dans la continuité.
Mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui, qui a choisi de faire ce métier.
Rigobert Song, sélectionneur des lions indomptables. Des propos recueillis par notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jelentap. C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Guillon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta a achevé ce lundi sa mission de 2 jours à Kinshasa. Il a consulté plusieurs acteurs de la société congolaise en vue de préparer le 3e round des pourparlers de Nairobi, prévu le 21 novembre. Uhuru Kenyatta a appelé les groupes armés à déposer les armes et à privilégier le dialogue. Il s'est rendu aujourd'hui à Goma. Les détails avec Alex Kati Kataï à Kinshasa.
C'était 2 jours de travail intense pour l'ancien président kényan à Kinshasa. Uhuru Kenyatta a consulté plusieurs acteurs de la société civile ainsi que la classe politique congolaise. Parmi les acteurs politiques consultés figurent les chefs des différentes institutions du pays. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de l'initiative du président Uhuru. Christophe Mbosso a tout de même posé des conditions pour toute discussion avec certains groupes armés.
Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité avec tous les États voisins. Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement.
Le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, a tenu à rassurer les facilitateurs de son engagement dans le processus de Nairobi. Samalou Kondé a réaffirmé la position de la RDC sur l'avenir des groupes armés qui prendront part au pourparlers de Nairobi.
Nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces.
Le président Uhuru a aussi consulté la société civile des provinces de l'Est. Évariste Nfoama de la société civile du Sud-Kivu affirme avoir suggéré aux facilitateurs d'avoir un groupe de travail pour mener à bien sa mission.
C'est de demander aux facilitateurs de l'EAC d'avoir un groupe de travail parce que c'est un conflit qui a beaucoup de complexité et qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de lucidité pour essayer d'accompagner le Congolais et les États de la région à aller vers des solutions durables de paix, de stabilité. De développement.
Clôturant ses consultations tard dans la nuit de ce lundi, Uhuru Kenyatta a tenu à éclairer les parties prenantes au processus de Nairobi sur les principes fondamentaux qui s'imposent à tous.
Nous ne sommes pas venus ici avec l'idée particulière de dicter qu'est-ce qui doit arriver, mais dans l'esprit et la compréhension de notre mandat, nous sommes venus écouter les populations du Congo parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'elles doivent faire, mais aider à faciliter pour apporter la paix entre les différentes parties. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est de dire à tous les groupes armés doivent déposer les armes, choisir le chemin de la paix par le dialogue, parce qu'il n'y a rien à gagner avec les armes.
Dans un message Twitter ce mardi, le représentant de l'Union européenne, qui lui aussi était consulté, a affirmé que le processus de Nairobi devrait permettre la mise en place d'un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire en s'appuyant sur des principes clairs. Pas d'intégration dans les FRDC ni d'amnistie. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré dimanche les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Le chef de l'État burkinabé a reconnu qu'une bonne partie du territoire est sous le contrôle des djihadistes. Tout le monde en est responsable, affirme le capitaine Traoré qui a appelé les Burkinabés à une introspection et à un mea culpa sur la crise sécuritaire que traverse son pays. Yacouba Ouédraogo a joint ici à Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis, Dacier de Bendouté, analyste politique.
Du point de vue de la forme, il faut dire qu'il a montré que le militaire, d'abord, c'est pas celui-là qu'on croit de façon générale en Afrique. Le militaire, c'est quelqu'un de pondéré, d'intelligent, d'observateur et aussi quelqu'un qui milite pour le développement, en ce sens que du point de vue langage, tout calmement, il a peint la situation sans, dans un langage vraiment et académique et simple aussi, ce qui a permis aux gens de vraiment bien comprendre la réalité. Maintenant, il a tenu un langage de vérité. Depuis, en tout cas, Thomas Sankara et les propos de Laurent Gbagbo, on n'a pas vu un homme politique qui a eu le courage de dire au Burkinabé ce qu'il a dit. Quand il dit qu'on est méchant, et il dit qu'on est tous responsables et même bien d'autres réalités. Donc je pense que c'est un langage de vérité. Il a eu le courage de dire en tout cas ce qui se passe exactement dans notre pays.
Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que le territoire est presque perdu, l'impact, c'est positif ou négatif sur la population?
Je pense que c'est négatif sur la population. Parce que même dans la salle, quand il a parlé, vous voyez le visage de tout le monde a changé. Les gens étaient étonnés. C'est comme si c'est aujourd'hui que ces jours-là que les Burkinabés découvraient c'est quoi exactement les terroristes et le terrorisme et quels sont ses impacts. Donc c'est à partir de ces jours que les Burkinabés découvrent réellement les impacts du terrorisme, d'autant plus qu'aucun leader politique n'avait tenu ce langage. On disait aux gens, ça va aller, on fait les cérémonies funéraires et puis c'est tout. Avec ce qu'il a tenu, je pense que ça a choqué les Burkinabés et en même temps, c'est une interpellation sur les réalités qu'il a peint, par exemple, la disparité dans le développement.
Le capitaine Traoré a peint deux Burkina apparemment différents, le Burkina des villes et celui des régions. Et pour lui, le sous-développement à l'intérieur du pays a grandement favorisé l'expansion du terrorisme sur le territoire.
Absolument, mais ce n'est pas l'argument phare qui fait qu'on a connu le terrorisme. Mais il faut reconnaître que sur le terrain, il y a cette disparité. C'est comme une sortie aussi désemparée. Tout le monde est choqué. Mais on fait quoi? Il a posé une problématique. C'est ce qu'il devait faire avant la mise en place du gouvernement pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut aller ensemble pour régler ces problèmes. Je vous donne un exemple. À Kwere et à Batié, la province du Noumbiel, les gens ont plus les réseaux ghanéens que le réseau burkinabé, du point de vue téléphonique. Comment vous pouvez comprendre ça? Tu vas à Batié ou à Kwere, mieux vaut payer une puce ghanéenne que de payer une puce burkinabé. Parce que les réseaux ghanéens sont plus dans ces zones-là. Donc vous voyez comment le monde rural peine à se reconnaître dans un pays.
C'était Dacier de Bendouté, analyse politique burkinabé.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En vue de lutter contre les fake news et contribuer à la stabilité du Mali, l'ambassade des États-Unis à Bamako a financé une formation en fake-checking qui a concerné près d'un millier de jeunes journalistes et étudiants. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
La crise sécuritaire au nord et au centre du Mali a été un tremplin pour les fake news qui ont contribué à exacerber les tensions entre les communautés. Pour apporter une solution, l'ambassade des États-Unis a financé une formation afin de détecter les fake news et donner les bonnes informations. Idrissa Fané, chargé de communication à l'ambassade des États-Unis au Mali.
Qui dit stabilité dit aussi tolérance et bonne information. Nous avons constaté que la mauvaise information est en train de prendre de l'ampleur dans un pays qui est en crise. Donc, nous avons fait appel à des experts de la désinformation pour venir former l'une des principales couches de la société, les journalistes.
Sur une prévision de 1500 personnes, la formation assuré par les responsables du Jalon, site spécialisé en vérification de faits, a atteint près de 1000 étudiants et journalistes. Lassine Niangali, membre du site Le Jalon.
J'ai été appuyé pour l'ambassade pour qu'on puisse réaliser ce projet pour sensibiliser les gens et lutter contre la désinformation. Mais à l'époque, quand on commençait le projet, il y avait aussi la pandémie de coronavirus qui venait de commencer. Du coup, c'était une nouvelle maladie et il y avait beaucoup de fausses informations à ce sujet.
Ayant bénéficié de cette formation, Mariam Sissoko, journaliste au journal Le Sursaut, a déjà fait ses preuves.
Cette formation m'a apporté beaucoup. En plus des outils qu'on a pu avoir lors de cette formation, j'ai eu à produire un article sur un remède inventé, soi-disant inventé par un Indien. Donc j'ai pu faire recours aux différents outils qu'on nous a appris à la formation. En plus, j'ai contacté l'ambassade d'Inde pour avoir leur version là-dessus. Mais ils ont démenti l'information.
Dans le cadre de ce financement, des tutoriels ont été réalisés à l'endroit du grand public afin de former aux techniques de vérification des fake news. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Course contre la montre à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de trouver un accord avant la clôture vendredi de la COP27, la conférence mondiale sur le climat. Selon le chef de la diplomatie égyptienne qui préside cette rencontre, il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre pays riches et pauvres, notamment sur la question des dédommagements que réclament les nations du Sud. Le point avec Abdourahman Dia.
Information on these consultations will continue to be made available.
C'est la dernière ligne droite avant la clôture de la COP27 et les délégations mettent les bouchées doubles pour parvenir à un accord, notamment sur le respect de l'objectif de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2035 et surtout sur l'épineuse question des pertes et dommages. Mais on est loin d'un accord. Samer Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la COP27.
Bien que nous ayons conclu nos travaux sur certaines questions, il reste encore beaucoup de travail devant nous si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles dont nous pouvons être fiers. Nous devons maintenant changer de vitesse et compléter les discussions avec plus d'engagement politique de haut niveau.
Pour le ministre égyptien des Affaires étrangères, il faut tout faire pour éviter un échec de la rencontre. Samer Choukri.
C'est maintenant à nous tous ici de saisir l'occasion pour répondre aux demandes et aux appels de nos communautés du monde entier et qui n'accepteront rien de moins que des résultats significatifs à la COP27. Le temps n'est pas de notre côté et le monde nous regarde. On semble donc pour un bon résultat.
Lundi, l'Allemagne qui préside le G20 et une soixantaine de pays parmi les plus vulnérables au changement climatique ont lancé le 2020 une nouvelle initiative pour tacler la question du financement. Ce bouclier mondial contre les changements climatiques a déjà recueilli plus de 230 millions d'euros promis par des pays comme l'Allemagne et la France. Senja Schulz, ministre allemande du développement.
Le bouclier mondial permet de s'assurer que l'aide a été organisée à l'avance et qu'elle est rapidement disponible en cas de catastrophe climatique.
Cette initiative a déjà été accueillie avec prudence par les activistes, d'autant plus que les pays riches ont du mal à respecter leur engagement de porter à 100 milliards de dollars par an l'aide contre les émissions et les impacts climatiques, d'où l'urgence de parvenir à un accord à Sharm el-Sheikh. Ken Ofori Atta, ministre des Finances du Ghana.
We must not depart. Nous ne devons pas quitter la COP27 sans une mobilisation significative des ressources sur les pertes et dommages. Il est important de rappeler que les pays vulnérables au changement climatique continuent d'en subir les pires conséquences alors qu'ils sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète.
Le 2020 estime que les dommages causés par le climat aux économies de ses membres se situent à 525 milliards de dollars depuis l'an 2000. Reste à savoir quels mécanismes de financement seront retenus d'ici la fin de la COP27, vendredi.
Jacques Aristide avec vous. Toute la planète va avoir les yeux rivés sur le Qatar à partir de ce dimanche, à l'occasion du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Et bien évidemment, dans l'édition de ce jeudi, Washington Forum se met à l'heure de cette grande messe du ballon rond qui prendra fin le dimanche 18 décembre. C'est un mondial 2022 qui a lieu pour la toute première fois dans un État arabe. Mais pourquoi le pays hôte fait-il l'objet d'autant de critiques virulentes, surtout au chapitre des droits humains et de l'environnement? Comme d'habitude, vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.